Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 12 à 21 de la Sainte Sourate Layla. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى
لا يصلاها وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي
Certes, oui, à nous de guider. Certes, oui, et à nous l'au-delà et le présent. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne tombera que le très malheureux, et celui-là même qui crie au mensonge et tourne le dos, alors quand sera écarté le pieux, celui-là même qui donne ses biens pour se purifier, sans que personne lui ait fait un bien dont ce soit la récompense, mais pour la seule recherche du visage de son Seigneur, le Très-Haut. Et certes, il va bientôt agréer.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce dimanche 30 octobre 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal, suivi d'un commentaire politique. L'Iran dénonce les tentatives divisionnistes des États-Unis. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, les Iraniens continuent de pleurer les victimes d'un récent attentat terroriste qui a touché la ville de Shiraz. Attentat de Charcherar dans la ville méridionale de Shiraz, l'ennemi tente de perturber la sécurité de l'Iran, déclaration du chef du Parlement iranien. Et puis, l'actualité, c'est à Al-Khalil, un Israélien abattu et 5 autres blessés. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Les Iraniens continuent de pleurer les victimes d'un récent attentat terroriste sanglant qui a touché la ville méridionale de Shiraz. Plus tôt dans la journée, dans la ville de Shiraz, des foules de personnes se sont rassemblées dans une grande procession pour dire un dernier adieu à 6 autres victimes de l'attaque sanglante. Des milliers de personnes à travers l'Iran ont participé aux cérémonies funéraires pour faire leurs derniers adieux aux victimes de l'attaque terroriste du mercredi 26 octobre contre le sanctuaire du Shah Cherar, dans la province méridionale de Fars. Dimanche matin, des responsables gouvernementaux et militaires de haut rang, ainsi que des personnes de tous horizons, ont assisté à une grande cérémonie au sanctuaire de Shah Cherar à Shiraz. Les participants ont appliqué des prières pour les défunts avant que 6 des victimes ne soient inhumées. Une procession similaire a eu lieu dans la ville voisine de Yassouj, la ville natale des 2 autres victimes. De même, samedi, des milliers de personnes en deuil ont pris part à des funérailles dans la ville sainte d'Omachad, au nord-est du pays. Mercredi, un homme armé a ouvert le feu dans un sanctuaire de Shiraz, tuant 13 personnes parmi les fidèles et le personnel, dont des femmes et des enfants. Plus de 20 autres ont également été blessés. L'agresseur, un ressortissant étranger, a été blessé par les forces de sécurité et décédé des suites de ses blessures à l'hôpital. Le groupe terroriste Daesh a revendiqué l'attaque. Le président du Parlement iranien Mohammad Borel Ghalibaf a réagi aux évolutions et a déclaré « L'attaque terroriste contre le sanctuaire de Shah Cherar à Shiraz a montré que l'ennemi tente de perturber la sécurité du pays. Le régime sioniste et les réactionnaires régionaux ne peuvent pas se cacher derrière le masque de Daesh. » Le président du Parlement iranien a poursuivi « Ce crime a prouvé que les ennemis guettent pour diviser le pays. Ce crime a prouvé que l'ennemi essaie de perturber la sécurité du pays. Le régime sioniste et les réactionnaires de la région doivent savoir qu'ils ne peuvent pas se cacher derrière le masque de Daesh et des télévisions londoniennes et qu'ils doivent être responsables des sangs versés en Iran », a-t-il conclu. Enfin, au moins un colon israélien a été tué et 5 autres blessés dans une fusillade dans la ville occupée d'Al-Khalil, également connue sous le nom d'Hébron en Cisjordanie. Selon les médias israéliens, un Palestinien a été également blessé. Les médias ont affirmé que l'opération avait été menée par un combattant palestinien qui a ensuite été tué par les forces israéliennes. L'armée israélienne a déclaré qu'elle procédait à un ratissage de la zone à la recherche d'autres suspects. Cette opération intervient alors que les territoires occupés ont connu une forte augmentation d'opérations armées par des Palestiniens ces dernières semaines. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. l'Iran dénonce les tentatives divisionnistes des États-Unis. En riposte à une tentative des États-Unis de faire tenir une réunion informelle du Conseil de sécurité des Nations Unies, la représentation de la République islamique d'Iran, au sein de l'organisation, a déclaré qu'il s'agissait d'une tentative pour faire avancer leurs objectifs politiques, même au prix de la violation des droits internationaux. En réaction à des informations concernant une tentative des États-Unis de faire tenir une réunion officieuse du Conseil de sécurité concernant les troubles en Iran, la représentation permanente de la République islamique d'Iran auprès de l'ONU a souligné, compte tenu de leur hypocrisie, de leur double langage et leur mise à exécution sélective des droits de l'homme, les allégations des États-Unis sur le soutien aux femmes iraniennes sont trompeuses et manquant de bonne foi. Selon le rapport des principaux services de renseignement iraniens, les États-Unis sont les instigateurs des récentes émeutes en Iran. Les États-Unis et leurs alliés ont toujours abusé de la position des Nations Unies pour faire avancer leur programme politique, même au prix de la violation des lois internationales et de la Charte des Nations Unies, a estimé le représentant iranien. Après la publication de son information sur la réunion informelle du Conseil de sécurité, l'agence de presse Reuters a fait paraître le texte de la réponse de la représentation de la République islamique d'Iran auprès de l'ONU, mais le paragraphe qui fait référence à l'évaluation des principales agences de renseignement iraniennes sur l'implication des États-Unis dans les troubles a été supprimé. Des sources diplomatiques ont déclaré aux journalistes de l'IRNA que les États-Unis et l'Albanie cherchaient à tenir une réunion informelle de ce conseil ce mercredi dans le but de renforcer leurs implications dans les affaires intérieures de l'Iran. Cette décision américaine est une réaction au récent rapport des principales agences de renseignement du pays, le ministère du renseignement et l'organisation du renseignement du CGRI sur les origines des troubles en Iran, selon la même source. Au lieu de répondre aux cas mentionnés dans ce rapport, les États-Unis ont préféré bifurquer et montrer leur soutien aux droits de l'homme de manière sélective et avec des objectifs politiques spécifiques. La représentation américaine aux Nations Unies a cependant prétendu qu'elle cherchait des moyens de donner un coup d'envoi à des enquêtes indépendantes et documentées sur les troubles en Iran. Au lieu de répondre au rapport des principales agences de renseignement iraniennes, le président américain, Joe Biden, tente de faire le show des droits de l'homme aux Nations Unies. Aux côtés de diplomates américains aux Nations Unies, 13 législateurs américains ont également envoyé une lettre aux grandes entreprises du numérique, leur demandant de faciliter l'accès des émeutiers aux applications et aux services en ligne. Dans le même temps, la représentante permanente adjointe de l'Iran auprès des Nations Unies à New York, Zahra Ershadi, a déploré avant une réunion de l'Assemblée générale vendredi que les États-Unis continuent de contrevenir à une décision de la Cour internationale de justice qui les oblige à lever les sanctions anti-iraniennes illégales sur les exportations vitales vers la République islamique. Les États-Unis refusent non seulement d'appliquer l'ordonnance temporaire de la Cour internationale de justice, CIJ, en ce qui concerne la levée de sanctions sur l'importation de la nourriture et des médicaments vers l'Iran, mais en imposant un nouveau train de sanctions, notamment au milieu de la pandémie du COVID-19, ils ont délibérément violé leur engagement envers ce décret, a-t-elle noté. Le 3 octobre 2018, la Cour internationale de justice a rendu une ordonnance ayant temporairement demandé à l'unanimité aux États-Unis de supprimer tout obstacle à l'importation de denrées alimentaires ainsi que de médicaments et de dispositifs médicaux en Iran, de veiller à ce que les licences et les permis nécessaires soient accordés et que les paiements et autres transferts de fonds ne soient soumis à aucune restriction dans la mesure où ils se rapportent aux biens et services subventionnés. Conformément au verdict, les États-Unis doivent-elles souligner également supprimer tous les obstacles qu'ils ont créés sur la voie des importations iraniennes de produits agricoles ainsi que de pièces de rechange, d'équipements ou de services nécessaires à l'aviation iranienne. Washington a par contre eu recours à une vendredi 28 octobre. Les principales agences de renseignement iraniennes ont publié une déclaration commune dans laquelle elles soulignent le rôle majeur des agences de renseignement étrangers, en particulier la CIA, dans l'orchestration des violentes émeutes en Iran ces dernières semaines. Le ministère iranien des renseignements et l'organisation des renseignements du CGRI ont publié vendredi une déclaration qui explique en détail différents aspects des récentes émeutes en Iran. Le travail continu et précis des services de renseignement au cours de l'année écoulée, ainsi que les documents acquis, révèlent de nombreux exemples d'ingérence indéniable du régime terroriste américain dans la conception, la mise en œuvre et le maintien des troubles en Iran, indique le texte. Il aborde la question en divisant les faits en trois catégories: avant les troubles, pendant les troubles et après les troubles. Les États-Unis ont exploité la mort tragique de Mahsa Amini, une jeune femme iranienne, avant même l'annonce de l'enquête officielle, lit-on dans le communiqué. Des preuves recueillies par les renseignements montrent que la CIA a conçu un vaste plan avec la coopération de services d'espionnage alliés et de mandataires réactionnaires du Royaume-Uni, du régime israélien et de l'Arabie saoudite pour semer un chaos national dans le but de commettre des crimes contre la grande nation iranienne et l'intégrité territoriale du pays et préparer le terrain aux pressions étrangères, peut-on lire toujours dans le texte. Le rapport conclut que malgré toutes ces tentatives, les ennemis n'ont atteint aucun de leurs objectifs. Le projet de destruction de l'Iran a subi une défaite humiliante.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour une nouvelle édition de débat en direct depuis la capitale iranienne, Téhéran. Dans ce débat, nous allons évoquer la situation en Irak. En effet, les députés irakiens ont voté en faveur du cabinet du nouveau Premier ministre irakien composé de 21 membres. Ce jeudi, ce vote intervient une semaine exactement après l'élection par le Parlement d'un nouveau président, M. Rachid. Donc un nouveau gouvernement, un nouveau Parlement, un nouveau président et un nouveau Premier ministre pour l'Irak. De son côté, les autorités iraniennes ont félicité la composition et ce nouveau gouvernement, ce nouveau Premier ministre, le président Raisi, mais également le ministre iranien des Affaires étrangères, M. Amir Abdollahian, ont envoyé séparément des messages de félicitations à ce nouveau gouvernement et ont souhaité renforcer davantage les relations et les coopérations entre les deux pays. Alors, qu'en sera-t-il de l'avenir de l'Irak? À quoi devrait-on s'attendre dans les jours, les semaines et les mois à venir en Irak? Qu'en sera-t-il surtout de la présence des forces étrangères, notamment des États-Unis? On en saura plus avec nos deux invités, mais avant de vous les présenter, je vous invite à regarder un reportage préparé par mes collègues à ce sujet. On revient tout de suite après.
Le Parlement irakien a élu jeudi 27 octobre Mohammad al-Soudani, Premier ministre. Les députés irakiens se sont réunis pour se prononcer sur le nouveau gouvernement du pays et celui-ci a pu voir le jour grâce à un vote de confiance en faveur du gouvernement dirigé par Mohammad al-Soudani. al-Soudani, qui avait été désigné comme premier ministre irakien, a été chargé au début du mois de former le nouveau gouvernement du pays après des mois d'instabilité politique. Les députés irakiens avaient élu le président du pays, Abdel Latif Rachid, le 20 octobre, à la suite d'un vote de 162 pour contre 99 contre, succédant ainsi à Barham Salih, qui était en poste depuis 2018. Selon un norme politique en vigueur en Irak depuis 2006, un candidat kurde est élu président, tandis qu'un sunnite dirige le parlement et qu'un chiite assume la fonction de premier ministre.
Voilà, de retour sur le plateau de Presse TV. Nous sommes en ligne en direct par Luc Michel, avec Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, et Philippe Hugon, analyste politique, qui est avec nous depuis la France. Monsieur Michel, je vous dis bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'élection du nouveau président, Monsieur Rachid, intervient après 3 tentatives infructueuses de l'élection d'un nouveau gouvernement. Donc l'Irak, qui avait une situation qui planait dans le doute depuis des semaines, des mois, voire. Et enfin, un nouveau gouvernement. Un nouveau gouvernement surtout félicité par les voisins. Dans un premier temps, Monsieur Michel, comment interprétez-vous cette élection et la situation générale en Irak?
Tout d'abord, bonjour à votre équipe et à vous-même. Et bonjour surtout à Monsieur Philippe Hugon, que j'ai toujours plaisir à retrouver. C'est l'échec de 20 années d'occupation américaine en Irak. Vous savez, la géopolitique est la horreur du vide. En géopolitique, il y a des acteurs. Ce sont les États et les forces politiques. Lorsqu'un acteur disparaît, il est remplacé par un autre. On a vu, par exemple, lorsque la Jamaïque libyenne de Kadhafi a été détruite, on a vu le Tchad du maréchal Idriss Déby prendre sa place. C'est la même chose en Irak. Les Américains ont cru détruire l'Irak et ont cru plonger ce pays dans le chaos et l'occupation. Mais aujourd'hui, ce sont des forces anti-américaines qui prennent la direction de l'Irak. Et c'est une grande puissance anti-américaine, l'Iran, qui roule son rôle géopolitique de grande puissance régionale. Nous assistons donc à l'échec américain. Tout cela ne fera que renforcer la politique de l'axe de la résistance.
Mmh. Merci à vous, Monsieur Michel. Restez avec nous. Alors, un grand bonjour également à Philippe Hugon, qui est avec nous en direct depuis la France. Bonjour, Monsieur Hugon, et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous, Monsieur Hugon, comment interprétez-vous la situation générale en Irak et, en fait, cette élection?
Oui, alors bonjour à toute l'équipe, bien sûr, et à notre ami Luc Michel, que j'apprécie beaucoup. Alors, en ce qui concerne la situation actuelle en Irak, moi, je dois dire que je suis très inquiet, puisque c'est la marge de manœuvre de ce gouvernement qui est extrêmement étroite. Alors, tout ceci rentre dans un contexte international qui est très difficile. Vous savez, l'Irak a de grandes ressources pétrolières et gazières. Et nous avons aujourd'hui une situation extrêmement difficile, extrêmement tendue avec la Russie sur un plan énergétique. Donc ça risque, tout ceci risque d'amener des alliances extrêmement complexes à gérer, puisqu'on sait très bien que l'Occident a un besoin permanent d'énergie. Donc ça, c'est un point qui risque d'apporter une grande, je dirais, une grande mésentente entre groupes politiques, entre pays, et ça va compliquer encore un petit peu plus les relations entre ce gouvernement irakien et les forces d'occupation américaines, hein, puis on sait très bien que les Américains sont très présents sur place et sont prêts à faire beaucoup de mal dans la région pour conserver cette mainmise sur l'Irak et sur l'énergie. Donc moi je suis très inquiet de cette situation et je pense que malheureusement les choses ne vont pas aller en s'arrangeant. Au contraire, les choses se dégradent. Plus les Américains et l'Occident serreront un petit peu la vis et plus la situation va devenir extrêmement difficile sur place.
Merci, Monsieur Hugon. Restez en ligne. Alors, Monsieur Michel, À votre avis également, est-ce que la situation va se dégrader ou plutôt c'est un échec pour la coalition, la soi-disant coalition internationale, les États-Unis présentes sur le sol irakien depuis des années sous prétexte d'instaurer la paix et la sécurité? Est-ce que ces élections ne sont-ils pas un début du retrait des Américains?
Je ne partage pas les plus pessimistes parce que c'est un dégagement de l'Irak des griffes de l'impérialisme. Le problème de l'Irak, c'est l'existence de la région autonome kurde. Elle a été séparée du reste de l'Irak dès 1995, lorsque les Américains avaient tendu une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Irak. Et cette zone, aujourd'hui, elle joue le rôle des intérêts étrangers, des États-Unis et la Turquie. Mais la tendance globale, évidemment, c'est l'échec des Américains. Et la tentative, évidemment, de resserrer l'emprise américaine sur l'Irak avec l'assassinat du général Soleimani, qui représentait la politique de la résistance, elle n'a pas pu déboucher sur un renforcement du camp impérialiste. Donc moi, je reste optimiste, évidemment, d'autant plus que aujourd'hui, l'emprise occidentale dans le domaine des hydrocarbures, il est combattu à la fois par Moscou, Téhéran, mais tous les producteurs de gaz et de pétrole dans le monde, et donc l'Iran est plus isolé, pas plus que l'Irak.
Merci à vous, Monsieur Michel. Alors, Monsieur Hugon, vous avez évoqué votre inquiétude quant à une dégradation de la situation en Irak. Est-ce que la formation de ce nouveau gouvernement est peut-être plus de stabilité et avoir un gouvernement stable en Irak n'aiderait-il pas à un retrait peut-être forcé et précipité des États-Unis, des forces américaines de l'Irak?
Oui, alors moi je suis pas optimiste hein, sur cette situation parce que cette crise de l'énergie que l'on a actuellement en Europe, hein, aux États-Unis, puisque on ne peut pas faire sans pétrole malheureusement, va apporter des accords qui risquent d'être un petit peu difficiles à gérer. Quand on parle de l'échec américain en Irak, je suis tout à fait de l'avis de Luc Michel, c'est en effet à longue échéance. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, je dirais que ça fait quand même plus de 20 ans que les Américains ont malgré tout gagné sur le plan énergétique, puisque même si ils sont condamnés, même s'ils perdent dans des tas de domaines, ils restent quand même présents sur place. Quelque part, c'est quand même une petite victoire et qui leur permet de contrôler malgré tout la région. Et ça, malheureusement, c'est pour moi une grande tristesse de voir que le peuple irakien, et quand je parle du peuple irakien, c'est un petit peu le peuple de différents pays comme l'Iran, comme la Syrie, comme qui souffre énormément de cette situation, pendant que nous, en monde occidental, nous vivons pas trop mal une situation qui est invivable sur place. On a une très grande indifférence, je trouve, envers tous ces gens qui meurent chaque jour. Et moi, c'est ça qui me rend très pessimiste, parce que je vois une très grande indifférence au niveau des peuples occidentaux par rapport à tous ces peuples qui souffrent. Et ceci pour des raisons économiques, des raisons politiques. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je suis aussi pessimiste quand je vois la situation se dérouler actuellement au Moyen-Orient. Malheureusement, je dirais que je vois pas aujourd'hui un gouvernement qui aura suffisamment de force pour pouvoir gérer cette situation. Je pense que ça va introduire un certain nombre de compromis, et les compromis dans certaines situations deviennent très vite ingérables. Donc ça risque de relancer des vagues de violence, des vagues d'attentats, et pour cette raison-là, oui, je suis inquiet.
Et Monsieur Hugon, en ce qui concerne une coopération, une relation davantage renforcée, une alliance entre l'Iran, l'Irak, les autres alliés, à savoir le Liban, la Syrie, donc l'axe de la résistance, est-ce qu'on ne pourrait pas rester quand même un petit peu optimiste au renforcement de cette alliance avec ce nouveau gouvernement irakien ?
Alors, sur ce point, je suis d'accord. Là, on peut être optimiste sur ce point. Ça risque de resserrer un petit peu les liens. Le problème, c'est est-ce que l'Occident ne va pas perturber les cartes dans cette diplomatie d'entente? Et malheureusement, c'est ce que je crains. C'est ce renforcement de façon à essayer, je dirais, de torpiller quelque part certains accords, de façon à ce que l'Irak reste dans une situation difficile, afin que le monde occidental puisse une fois de plus profiter de cette situation, hein, et s'accaparer un petit peu les réserves gazières et pétrolières de l'Irak. Et je pense que c'est le gouvernement actuellement, le nouveau gouvernement irakien, va avoir une marge qui va être extrêmement réduite pour conduire cette diplomatie.
Merci beaucoup. Restez en ligne. Monsieur Michel, vous, à votre avis, cette alliance qui pourra se former davantage entre l'Iran, l'Irak et donc toute l'axe de la résistance avec ce nouveau gouvernement irakien, n'augure-t-elle pas de bonnes choses pour l'avenir?
Tout d'abord, je voudrais intervenir sur ce qu'a dit monsieur Hugo. Je suis comme lui. Je partage sa tristesse au sort des peuples. C'est justement la question qui a dominé le sommet des Dakar sur la sécurité qui vient de se tenir en Afrique. Les Africains ont expliqué qu'ils souhaitaient prendre position dans la guerre en Ukraine à partir du moment où les Occidentaux étaient indifférents au malheur des peuples africains. C'est exactement ce dont il s'agit. C'est cet égoïsme occidental. Maintenant, il faut retenir que ce qui est capital, c'est l'affaiblissement des États-Unis. Leur éjection d'Afghanistan. Il faut souhaiter maintenant une éjection de Syrie. Lorsque l'Irak ne sera plus brillant des taux, il est déjà peu du côté de l'Afghanistan, mais qu'il sera plus brillant des taux du côté de la Syrie, les choses seront possibles avec l'axe de la résistance. Rappelons-nous que la politique américaine en Irak d'agression, elle était pilotée par l'ambassadeur américain en Afghanistan, à Kaboul, qui était l'ambassadeur Khalilza. C'est l'architecte de la politique américaine en Afghanistan et en Irak. Cette politique est un échec. C'est cela que je veux retenir comme touche optimiste dans cette configuration géopolitique.
Merci pour vos explications. Alors, en ce qui concerne des politiques américaines, M. Hugon, les États-Unis sont quand même assez préoccupés et occupés, en quelque sorte, dans cette crise ukraino-russe. Donc, sur un front, les États-Unis sont assez occupés. Est-ce que ceci pourrait davantage affaiblir les Américains sur le terrain en Irak, donc la formation de ce nouveau gouvernement, une alliance avec l'axe de la résistance de ce nouveau gouvernement et les préoccupations des États-Unis sur d'autres fronts, à savoir l'Ukraine?
Oui, de toute façon, il faut savoir que la domination américaine va se finir dans les 15-20 ans qui viennent, puisque je pense que, vous savez, les États-Unis, c'est un peu un géant avec des pieds d'argile. Et aujourd'hui, il y a malgré tout un réveil de d'un certain nombre de dirigeants occidentaux. Et cette politique menée par les États-Unis qui ont conduit de partout à des guerres et au chaos et à la mort de centaines de milliers de personnes à travers le monde, cette politique doit cesser. Et va cesser, même si ça prend encore un petit peu de temps, parce que je pense que tout ceci va prendre beaucoup de temps, d'autant plus que les difficultés économiques que l'on connaît en Europe ou aux États-Unis font que les peuples et que les populations ont tendance à se refermer un petit peu sur eux-mêmes et jouer un petit peu la carte de la survie économique. Donc il est vrai que leur état d'esprit est occupé par autre chose que ce qui peut se passer à travers le monde, mais je pense que cette domination américaine qui a fait tant de mal à travers le monde va s'effondrer petit à petit du fait de la situation économique américaine. Je crois qu'ils n'ont jamais été quand même dans une situation aussi difficile et à tous les niveaux. Moi, je dirais la meilleure chose qui pourrait arriver était... pas très gentil de dire ça de ma part, mais il est à souhaiter que le monde occidental connaisse un effondrement financier afin que l'on cesse d'intervenir dans les politiques intérieures d'un grand nombre de pays. Alors aujourd'hui, on parle de l'Irak, mais c'est le cas d'un grand nombre de pays, comme le disait Luc Michel également en Afrique, mais c'est également le cas, comme on l'a vu en ce qui concerne les Américains, le mal qu'ils ont pu faire en Amérique du Sud. Eh bien, il est à souhaiter que l'on connaisse une crise financière importante en Occident, afin que les choses puissent être mises à leur juste place et qu'on cesse d'intervenir comme on le fait depuis des dizaines d'années dans un grand nombre de pays et qu'on déstabilise, qui crée le chaos économique mais qui crée surtout la mort de centaines de milliers de personnes à travers le monde.
Merci pour vos explications. À votre avis, vous, Monsieur Michel, quand est-ce qu'on sera témoin de la fin de la présence interventionniste de l'Axe-US-OTAN, non seulement au Moyen-Orient, comme le dit M. Hugo, mais également en Afrique et dans d'autres pays du monde entier?
Le projet géopolitique mondial des Américains, c'est un échec. À la fin de la chute de l'Union soviétique, ils ont proclamé le nouvel ordre mondial. Il était basé sur un projet géopolitique. C'est justement ce nouvel ordre mondial. Et sur un projet géo-économique, c'est la globalisation, qui était la domination de l'économie mondiale par les Américains. L'année passée, il y a un livre fondamental qui a été publié. C'est le livre noir de la globalisation. Il démontre que toutes les opérations géopolitiques américaines sont liées aux opérations géo-économiques de la globalisation et que le coût des guerres américaines de la globalisation et de 600 millions d'êtres humains. Nous assistons au crépuscule de ce projet américain. Donc je suis optimiste pour voir ce projet terminé. Mais avant, les Américains ont un projet de contre-offensive. C'est un espèce de banco géopolitique. Ils pensent que profitant de ce qui est encore leur puissance, ils peuvent tenter un coup de banco géopolitique et tenter de faire que le 21e siècle soit un nouveau siècle américain. Donc il faut s'attendre au dernier sursaut de la bête blessée. Et lorsqu'une bête blessée se défend, c'est à ce moment-là qu'elle est la plus dangereuse.
Merci à vous, M. Michel et M. Hugon. Il y a aussi la question du soutien qu'apportent les gouvernements européens aux politiques interventionnistes des États-Unis partout dans le monde. Jusqu'où ce suivisme aveuglé se poursuivra-t-il, à votre avis, de la part des pays européens?
Je crois que c'est surtout une question économique. L'Europe est dans une situation économique catastrophique et comme le disait très bien Luc Michel, une bête blessée est plus dangereuse qu'une bête en bonne santé puisqu'ils sont capables de faire n'importe quoi. Et c'est ce qu'on peut craindre. Et aujourd'hui, on voit encore les politiques européennes se calquer la ligne américaine, ce qui est, à mon avis, une très très grande erreur que commet l'Union européenne. Et moi, je souhaite vraiment, comme je vous le disais, c'est peut-être pas très bien de dire ça aujourd'hui, mais il y a qu'un effondrement financier qui fait que les États seront obligés de se recentrer sur leur politique intérieure et que l'on s'occupe enfin de nos affaires et qu'on cesse cette ingérence permanente comme on le fait depuis des dizaines d'années. Et je vous dis bien, ces ingérences, elles créent des centaines de milliers de morts. Et je trouve que dans le monde occidental, ces centaines de milliers de morts qu'ont pu faire ces politiques interventionnistes, eh bien, on ne parle pas beaucoup des victimes, mais du mal que l'on aura pu faire depuis une cinquantaine d'années.
Merci beaucoup. Monsieur Hugon, vous avez évoqué peut-être la nécessité d'une éventuelle crise économique. Donc, il y a aussi la crise énergétique qui sévit l'Union européenne dans les jours à venir, les semaines à venir, avec l'hiver et l'automne. Et donc, ce manque d'énergie dû au soutien qu'apportent les pays européens aux États-Unis dans la crise ukraino-russe, n'est-ce pas, Monsieur Hugon?
Ah oui, tout à fait. Alors ça, c'est il est clair que vous savez, en Europe, il suffit d'aller dans un supermarché, vous voyez les rayons qui sont pleins, et Noël approche, on va voir la période des cadeaux, les périodes festives, et les peuples européens n'ont pas conscience des difficultés, et surtout, non seulement pour certains ils en ont pas conscience, mais délibérément ils refusent de voir les réalités en face. Pendant que nous, on va faire la fête au moment de Noël, eh bien des tas de gens vont mourir de faim. Et tant que l'Union européenne et les pays occidentaux ne seront pas touchés par ces crises alimentaires, ne seront pas touchés par ces crises économiques, ces crises de travail, eh bien beaucoup de gens ne voudront pas ouvrir les yeux sur la réelle situation. Et l'autre partie de la population, elle, qui en a conscience, ne refuse catégoriquement de voir les réalités en face. Et tant que nous ne serons pas touchés personnellement par toutes ces crises, eh bien on ne comprendra pas ce que vivent ces gens et la souffrance que nous imposons à tous ces peuples.
Merci beaucoup à vous, Monsieur Hugon. Le mot de la fin est à vous, Monsieur Michel. On vous écoute.
Écoutez, les politiciens qui sont au pouvoir à Bruxelles, ce sont des politiciens atlantistes. C'est une classe politique comprador qui a été mise au pouvoir par les Américains. Lors du traité de Maastricht, ils ont décidé dans le traité de confier la défense de l'Europe à l'OTAN. C'est la mort du projet géopolitique de l'Europe. Le grand géopoliticien Jordi von Lausen, c'était un général autrichien, il est mort aujourd'hui. Il avait écrit il y a 25 ans que la participation des politiciens atlantistes européens aux guerres américaines en Irak et en Yougoslavie, c'était une trahison à long terme des intérêts fondamentaux de leur peuple. C'est à cela que nous assistons. Il faut suivre deux phénomènes fondamentaux. C'est d'autre part la colère et la misère des masses européennes qui vont devoir choisir entre manger, se chauffer, rouler en voiture ou tout simplement vivre décemment. Et le refus des élites neutres européennes, les diplomates, les politiciens, les généraux, les industriels, de se voir attirés dans le désastre américain par les politiciens atlantiques. C'est cela qu'il faut suivre. C'est cela qui me rend optimiste aujourd'hui.
Merci beaucoup. Merci à Luc Michel, géopoliticien, qui était avec nous depuis Bruxelles, Philippe Hugon, analyste politique, qui est avec nous depuis la France. Merci également à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette édition de débat. Vous pourriez également revoir toutes les émissions et les informations sur notre site web french.presstv.ir. En vous souhaitant une très bonne journée, je vous dis au revoir et à très bientôt.
Afrique économique.
Le dynamisme du marché devrait booster les activités financières au Cameroun au quatrième trimestre 2022, selon le test prévisionnel de conjoncture de la BEAC. Les activités financières au Cameroun seraient bonnes au quatrième trimestre 2022, stimulées par le dynamisme du marché des titres publics. Mais à côté de ce marché qui, depuis 2011, permet aux États de la CEMAC, Cameroun, Congo, Gabon, Tchad, Centrafrique et Guinée équatoriale de lever des fonds pour financer leur budget et les investissements publics, l'embellie projetée dans les activités financières au Cameroun entre octobre et décembre 2022 sera également portée par la tenue de la Coupe du Monde et la bonne tenue des activités économiques dans le pays en général. S'agissant du marché des titres publics, le Cameroun, à lui tout seul, projette d'immobiliser une enveloppe de financement d'un montant de 155 milliards de francs CFA au 40e trimestre courant. Ceci, c'est sans compter avec les opérations du Gabon et du Congo, devenus les principaux animateurs de ce marché sur lequel, au moins 70% les fonds mobilisés par les États sont pourvus par des investisseurs installés au Cameroun. Pour rappel, et à en croire la Banque centrale, le test prévisionnel de conjoncture est un document trimestriel de nature prospective basé sur les enquêtes réalisées auprès des chefs d'entreprise, responsables de l'administration et autres acteurs clés des différentes filières et secteurs d'activité de la CEMAC. Il présente les anticipations de ces acteurs sur l'évolution prévisible de l'activité économique sur le prochain trimestre ainsi que les principaux facteurs explicatifs. Les travaux du Forum national des entreprises et établissements publics du Niger ont pris fin dans l'après-midi de ce jeudi 27 octobre 2022 au Palais des Congrès de Niamey avec l'adoption de plusieurs recommandations à l'endroit du gouvernement et aux entreprises et établissements publics. L'objectif de cette rencontre, note-t-on, est d'améliorer la gouvernance administrative et financière des entreprises et établissements publics afin de booster leur contribution à l'économie nationale et au bien-être social. Au cours de leurs travaux, les participants ont suivi plusieurs présentations, notamment celle de la directrice générale des entreprises publiques et du portefeuille de l'État, du conseil principal, du premier ministre, chef du département gouvernance, du directeur général de l'agence judiciaire de l'État et enfin une présentation du directeur général des impôts. Au terme de leurs travaux de 3 jours, les participants au forum ont formulé des recommandations à l'endroit du gouvernement. Il s'agit notamment d'accompagner les entreprises et établissements publics dans la mise en œuvre des stratégies élaborées pour la mise en œuvre de la mission qui leur est conférée, de recruter l'organe dirigeant sur la base de leurs compétences, leur profil et d'un cahier des charges et peut être ouvert par avis d'appel à candidature et de leur rémunération aux résultats ainsi que celle des présidents des conseils d'administration. Les participants ont également noté la nécessité de mettre en place un cadre légal qui sécurise les missions des EEP afin d'éviter une concurrence déloyale, de rendre opérationnels les mécanismes de compensation de la TVA et de veiller à la mise en œuvre des résolutions et recommandations formulées par les corps de contrôle. Aussi, le forum a relevé l'importance d'instaurer des mécanismes d'évaluation des organes d'administration et de gestion, d'introduire des règles visant la professionnalisation des conseils d'administration, désigner les membres de conseils d'administration sur la base de critères privilégiant la compétence et l'expérience. Le conseil d'administration du groupe de la Banque africaine de développement a approuvé le 26 octobre 2022 à Abidjan un prêt de 63,6 millions d'euros au Sénégal pour financer la mise en œuvre du projet de zone de transformation agro-industrielle du centre, dénommé Agropole Centre. Le projet, qui sera mis en œuvre par le ministère du Développement industriel et des petites et moyennes industries, va couvrir 4 régions au centre du pays, Kwalak, Kaffrine, Fatick et Diourbel. Sa réalisation va contribuer à accroître les exportations agricoles et réduire par conséquent les importations de denrées alimentaires, ainsi que l'insécurité alimentaire en milieu rural. La banque est un partenaire clé du Sénégal dans la mise en œuvre de 5 agropoles compétitifs intégrés prévus dans le cadre du plan Sénégal émergent à travers un partenariat public-privé. après l'agropole sud approuvée en 2019, nous finançons à présent celle de la région du centre du pays qui couvre un important bassin agricole, a déclaré Marie-Laure Akin-Olukbad, directrice générale de la Banque africaine de développement pour l'Afrique de l'Ouest. Atsuko Toda, directrice du département infrastructures rurales et finances agricoles, a ensuite ajouté que le projet bénéficie ainsi des leçons apprises pour ce type de projet agro-industriel, financé selon un partenariat public-privé à travers l'expérience accumulée en Côte d'Ivoire, en Éthiopie, au Nigeria, au Togo et au Sénégal, notamment et qui lui donne un avantage comparatif. Au cours de sa mise en œuvre, le projet de zone de transformation agro-industrielle du centre va appuyer la mise en place d'un fonds de développement des chaînes de valeur agro-industrielles en faveur des organisations de production et des PME-PMI. L'agriculture est une source importante de biomasse pouvant être valorisée à des fins énergétiques. De la production de biocarburants à celle d'électricité, il existe plusieurs possibilités pour l'utilisation à petite ou grande échelle des déchets et coproduits agricoles. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a donné le lundi 24 octobre le coup d'envoi des travaux de construction d'une centrale électrique à biomasse dans la région d'Abouasso, au sud-est du pays. Cette unité, la première du pays et de la région ouest africaine, sera dotée d'une capacité de production de 46 MW et alimentera le réseau électrique national. D'un coût global d'environ 200 millions de dollars, elle sera alimentée à partir de 520 000 tonnes de déchets issus de la production de palmiers. Ce volume sera fourni à hauteur de 80% par les producteurs d'Ayebo et de 20% par les plantations industrielles de la Palmacie, filiale du groupe ivoirien Sifka. La centrale, qui devrait être opérationnelle d'ici 2025, sera gérée par Biovea Énergie, société de droit ivoirien détenue notamment par EDF et Meridiam. Celle-ci l'exploitera sur une période de 25 ans avant d'en transférer la pleine propriété à l'État ivoirien. Le projet cofinancé par Proparco, filiale du groupe Agence française de développement dédié au secteur privé et Emerging Africa Infrastructure Fund, devrait permettre d'améliorer les revenus de 12 000 exploitants à hauteur de 20% par an, selon ses promoteurs. Il faut noter que cette initiative entre dans le cadre de la stratégie des autorités visant à tirer le meilleur parti de sous-produits agricoles, dont le volume atteint chaque année près de 15 millions de tonnes. Le processus de mise en concession des aéroports internationaux du Nigeria se poursuit, un plan fondé sur la diversification de l'économie nationale en vue de réduire sa dépendance vis-à-vis des revenus de pétrole. Les noms des soumissionnaires privilégiés et de second choix pour la concession de 3 des 4 principaux aéroports nigériens ont été dévoilés mercredi 26 octobre par le ministre en charge de l'aviation, Adi Serika. Le processus, qui est quasiment à terme, dure depuis plus de 2 ans et a connu plusieurs étapes qui ont permis de sélectionner le consortium Corporation America Airports comme principal soumissionnaire pour l'aéroport international Nnamdi Azikiwe d'Abuja, avec en option réserve le groupe ENL Consortium. Pour le complexe aéroportuaire Murtala Mohamed de Lagos, l'entreprise choisie en première option Etav Naco Project Planet Limited, alors qu'un second groupe, Sifax Changi Consortium, est désigné comme soumissionnaire de réserve. Corporation America Airports apparaît une seconde fois pour la concession de l'aéroport international Malam Amino de Kano. Aucun soumissionnaire n'a par contre manifesté d'intérêt pour la gestion de l'aéroport de Port Harcourt. Pour la suite, le processus requiert, selon le ministre de l'Aviation, la conclusion de la phase de négociation et les diligences du gouvernement fédéral. Toutes les autres approbations devront être présentées au Conseil exécutif fédéral. Les contrats de concession couvriront une période de 20 à 30 ans, avec des possibilités de prolongation en fonction des performances des opérateurs. Ils porteront essentiellement sur les actifs non aéronautiques situés sur les terminaux passagers et cargos des aéroports. Ce plan s'aligne sur la politique de diversification de l'économie nigériane et vise un désinvestissement de l'État dans les infrastructures de transport.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.